Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Faire famille, une série d'Émilie Chaudet réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la question de la PMA pour toutes et toutes les familles qui nous entourent. Névrosées, nombreuses, monoparentales, dysfonctionnelles, bienveillantes, chaleureuses ou toxiques, et il y a les histoires qui les fabriquent ou les disloquent et tout ce dont on hérite. Alors pour commencer, les personnages. Un fils et son château, une sociologue qui relativise, un notaire avec des anecdotes, une fille de retour, un père exigeant, un philosophe et un photographe de père et fils. Ensuite, le décor. Des vignes, la Savoie, l'aristocratie et ses vieilles histoires, des titres, une bibliothèque, une exploitation sans repreneur, l'adoption, des cordées et des photos de famille. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est au grand air.
On se dit, il y a une présence, il y a quelqu'un. Dans des grandes maisons comme ça, on imagine toujours qu'il y a des fantômes ou des personnes qui se cachent dans les recoins. Et puis après, on apprend à maîtriser sa peur.
Faire famille. Émilie Chaudet, Jean-Philippe Navarre. Deuxième épisode, porter l'hérédité.
Un des premiers souvenirs que j'ai, c'était de monter l'escalier quand mes parents, eux, dînaient avec leurs amis et qu'on m'envoyait tout seul monter jusqu'au deuxième étage. Et parfois, j'avais peur. Je disais, non, mais là, il y a quelqu'un qui me suit. Là, faut venir me coucher, faut venir avec moi. Il y avait une autre chose qui me faisait peur, c'est le vent dans les cheminées. Puis après, il suffisait que mon père me dise, non, mais tu sais, ça, c'est le vent dans la cheminée. Puis après, on apprend à apprécier d'avoir, voilà... un grand terrain de jeu. Voilà, bienvenue au château du Clitoire. C'est un château qui a été construit au 15e siècle. C'est un château d'agrément, mais c'est quand même imposant. Il faut s'en occuper. Après, voilà, notre attention, elle est d'abord sur la commercialisation du vin. Mais effectivement, quand on a des journées comme ça avec du vent, des intempéries, forcément on pense, est-ce que le toit est pas trop abîmé? Est-ce que les fenêtres sont bien fermées? On y pense, ouais.
Combien de fenêtres sur ce château?
Je pourrais pas vous donner le nombre exact, mais on a, oui, il y a plus de 25 pièces dans le château. Ouais.
Oui, c'est lourd, l'héritage. Je dirais que ça n'est pas anodin.
Anne Gottman, sociologue.
Faut quand même dire, pour certains, c'est très agréable. Hein, je veux dire, faut pas oublier quand même. Alors, pourquoi c'est un poids? C'est un poids parce que c'est un rappel du lien de filiation. Quand vous héritez, vous êtes rappelé à l'ordre généalogique. Vous êtes, c'est en tant que fils ou fille de que vous avez droit à ceci ou cela. Bon, alors que on peut. Avoir justement construit sa vie en essayant le plus possible de prendre le large. Parce que hériter, ça signifie être lesté d'un poids, de quelque chose d'étranger, d'involontaire, dans lequel on est, pour lequel on n'est en rien. C'est un manque de liberté, puisque c'est la loi qui vous fait héritier, en France en tout cas. L'actif patrimonial renvoie à un actif familial ou un passif. C'est-à-dire, il est évident qu'une maison où on a été malheureux, on n'aimait pas ses parents, etc., si elle vous revient, quoi. Voilà. Bon, j'allais dire en pleine figure. Bon, il y a quand même cette idée que le bien de famille, on le bazarde pas comme ça.
Bertrand Sabouret, notaire.
On va s'installer.
Alors, je vais d'abord prendre un exemple intéressant sur le sens de la famille. C'est un dossier que j'ai traité il y a environ 4 ans. Une famille de 5 enfants, les deux parents séparés, pas divorcés. Monsieur vivait dans le sud de la France, madame vit en région parisienne. Et monsieur est parti avec... s'est occupé plus particulièrement d'une de ses filles. Et madame est restée pour s'occuper des quatre autres. Pendant 30 ans, ils ne se revoient plus. Ce sont des gens très simples, pas du tout de fortune personnelle, rien du tout. Et puis, monsieur gagne au loto. plus de 30 millions d'euros. N'étant pas divorcé, cet argent appartient autant à sa femme qu'à lui, etc. Bon. Donc on envisage différentes solutions et ce monsieur me dit « Mais qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Je les ai pas vus depuis 30 ans. » Et je lui explique que ses enfants restent ses enfants et qu'ils sont donc ses héritiers. Et en fait, ça lui allait très très bien. C'est important de prendre ça en considération. Ça lui allait très bien parce que même s'il les avait pas vus depuis longtemps, il n'avait pas l'intention de les déshériter. Alors il a quand même fait un geste particulier pour l'enfant qui était resté avec lui, dont il s'était occupé. Et les quatre autres, il les a laissés à leur part normale de succession, qu'on appelle justement la part réservataire, qui est la part minimum prévue par la loi. Au moment où ce monsieur décède, je dois annoncer moi-même à cette femme que son mari est décédé, que je dois régler la succession et que je la convie à venir dans mon bureau. Elle commence par me dire qu'il n'en est pas question, elle n'a pas vu son mari depuis plus de 30 ans, qu'il était assez probable qu'il n'ait laissé que des dettes et qu'elle voulait pas être impliquée dans tout ça. Et j'ai réuni toute cette famille et je leur ai expliqué que leur père et mari, qu'ils n'avaient pas vu depuis si longtemps, avaient laissé une fortune très importante et qu'ils ne les avaient pas oubliés. D'ailleurs, eût-il voulu les déshériter, que ça aurait été compliqué sur le plan technique, mais ils n'avaient pas souhaité. Et j'ai souhaité retransmettre ce message qu'ils m'avaient dit de vive voix. Eh bien, on a eu un règlement de succession remarquable, avec une famille ressoudée, j'allais dire, par-delà la mort. Et quelque part, j'ai toujours pensé que... Il a dû recevoir un message positif là où il est maintenant. En tout cas, j'ai pris ça comme une leçon de vie particulièrement importante. C'est un bon exemple de dossier de succession.
Le rapport que vous avez à l'héritage, enfin au bien de vos parents, passe par le rapport qu'ils ont eu, eux, à leur bien. Est-ce qu'ils en ont hérité? Est-ce qu'ils l'ont gagné à la sueur de leur front, etc. C'est ça que vous prenez aussi. Subjectivement, je veux dire, c'est ça que vous absorbez. C'est-à-dire, je me souviens de femmes qui avaient reçu de leurs parents, qui étaient des ouvriers agricoles, c'est-à-dire des gens très, très modestes, qui avaient réussi à la fin de leur vie à acheter une petite maison. Et cette femme qui avait un emploi tertiaire, qui était propriétaire, qui était... Cette maison, c'était la sueur de ses parents. Elle n'allait pas en faire n'importe quoi, je peux vous dire. C'était extraordinairement précieux.
Le château a été habité sans interruption depuis le moment où ma famille en a fait l'acquisition, en 1636, jusqu'au décès de mon arrière-grand-mère en 1969. C'est mon père qui en a hérité. Et à l'époque, il n'était pas encore marié, il était ingénieur, il travaillait à Tavaux dans le Jura. Donc il faisait des allers-retours pour s'occuper un peu de la restauration du château. Et quand il s'est marié, en 1974, il est allé travailler en Belgique pour son beau-père. Moi, je suis né en Belgique. Donc rebelote, beaucoup d'allers-retours. Et ensuite, ma mère a souhaité que nous revenions en France. On venait de plus en plus souvent, parce qu'évidemment, depuis Paris, c'était plus simple. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler avec mon père sur l'exploitation que je suis venu pour des périodes de plus en plus longues. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer mon épouse. Et c'est en faisant des séjours de plus en plus longs ici que mon épouse m'a suggéré qu'on vienne s'installer pour développer en plus toute l'activité énotouristique.
Ce serait dommage de garder la maison vide, en fait, ça veut revivre avec une famille et je suis contente que les enfants peuvent grandir avec toute cette histoire autour d'eux.
Donc c'est vraiment à partir de 2014 qu'on a réinvesti complètement la propriété avec mon père et donc on lui a dit écoute, ce serait bien que tu viennes habiter chez toi avec nous, comme ça tu serais proche de moi et de tes petits-enfants. Ben voilà, ça c'est... C'est une des pièces dans laquelle on va passer le plus de temps finalement, comme souvent dans les maisons, la cuisine. Non, non, George. Peut-être si vous voulez, on peut s'installer dans le bureau de mon père. Apparemment, je m'occupais avec deux amis d'un label de musique électronique à Paris, donc quelque chose d'assez radicalement différent. Et c'est vrai que c'était très agréable dans le sens où c'était ma passion, mais c'était pas, on n'en vivait pas très bien. Et donc il y a un moment où il y a eu quelques différends, et donc la question s'est posée pour moi de faire autre chose. Et en discutant avec mon père, il m'a dit, écoute, tu pourrais t'occuper du vin et ça me rendrait service. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment en fait de effectivement, c'était une main tendue qui m'offrait aussi la possibilité de m'intéresser au patrimoine familial et de m'y investir, parce que j'avais déjà la trentaine passée et je me suis dit, mais un jour, il y avait toujours cette idée que un jour, ce patrimoine, il faudrait s'en occuper. Et donc, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment de le faire.
Vous êtes trempé.
Bonjour. Yvan Bochet, j'arrive de Savoie, de Beaufort exactement. Je suis producteur de lait, président de la coopérative du même nom que le fromage, qui a ce magasin à Paris. Et donc je suis à Paris pour deux jours.
Et alors, vous êtes père de famille aussi ?
C'est effectivement mon titre principal. Je suis père d'une famille de quatre enfants, trois filles et un gars. Enfin, pas dans l'ordre, hein, le garçon est le deuxième. Et Alice, donc, qui travaille au magasin, qui est la deuxième fille et la troisième dans la fratrie.
Nous, on vient de Villars-sur-Doron. Je suis Alice Bochet, la fille d'Yvon et de Françoise Bochet, et je suis responsable du magasin de la coopérative laitière du Beaufortin à Paris. Je suis arrivée dans cette coopérative il y a 3 ans, donc à 24 ans, à la fin de mon master que j'avais fait à Paris, qui est un master de gestion du patrimoine et valorisation touristique. A priori, pas grand-chose à voir avec le Beaufort et le fromage, mais j'avais fait mon mémoire sur la valorisation du patrimoine agropastoral dans le Beaufortin. Donc finalement, c'était assez proche. Mon compagnon était à Paris. En même temps, j'avais pas du tout envie de revenir à Paris. J'avais très envie de rentrer en Savoie. Et en fait, j'expliquais tous ces questionnements à mon père, qui m'a dit, bah, écoute, si jamais tu te décides pour Paris, j'ai peut-être un travail pour toi. Comment votre père vous a initié à ce métier-là, Alice ?
Je pense que j'ai été initiée depuis toujours en voyant mon père travailler. C'est pas compliqué de vendre du Beaufort quand on a vu son père se lever tous les matins à 4 heures pour aller traire les vaches et qu'on a grandi dans les alpages du Beaufortin. En fait, c'est ma vie pendant mes 18 premières années qui sont un peu résumées dans ce fromage et dans le travail des agriculteurs. Donc c'est juste une évidence.
C'est lequel votre préféré ?
J'ai un faible pour le persillé. C'est vraiment un fromage qui c'est un mi-lactique. C'est vraiment un fromage qui apporte quelque chose. Après, on a un fromage, voilà, vous avez ça aussi, ça c'est typique Beaufortin, ça, le Grattaron. Ça, si vous le trouvez entre Beaufort et Arèche, il doit y avoir 4 ou 5 producteurs. C'est de l'or en barre, ça. Ça, c'est, vous voyez la taille ? Quand il est bon, ça fait un repas.
Comment vous en avez parlé à votre fille la première fois de ces fromages quand elle est arrivée dans la boutique ?
Elle les connaissait pratiquement tous, hein, parce qu'en bonne savoyarde, et puis à nous, il y a toujours un plateau de fromage à la maison, et puis on est vraiment tous les enfants mangent du fromage et sont amateurs de fromage. Là, ce soir, je rejoins mon fils à Paris, et plateau de fromage, un bon vin, et on n'a besoin de rien d'autre. Lui, il est sympa, il change du pain.
Comment se passent vos relations de travail ?
Alors, il n'est pas mon supérieur hiérarchique direct, donc quand tout se passe bien, on n'a pas d'interaction. Je dirais que c'est un facilitateur, parce que si j'ai rencontré des difficultés dans ce poste, c'est dans le fait d'être à Paris, très loin de la Savoie, que mes responsables soient en Savoie et qu'ils ne connaissent pas du tout ni le travail à Paris, ni la clientèle parisienne. Mon père, malgré le fait d'être un agriculteur du Beaufortin, a peut-être plus d'ouverture d'esprit, en tout cas une meilleure connaissance, et il a confiance en moi.
Cette confiance-là qu'il a en vous, il vous l'a dite ?
Non. Non, ce serait trop... Non, c'est encore plus précieux, parce qu'il m'en a donné des preuves, surtout depuis que je travaille ici, mais en fait, en y réfléchissant depuis toujours, en me faisant confiance dans mon choix d'études, en me faisant confiance quand j'ai voulu partir du Beaufortin. Donc non, il ne me l'a pas dit, mais je le sais parce qu'il me le montre.
Vous avez donc 4 enfants.
Oui.
Comment cette relation professionnelle avec l'une de vos filles a changé, si ça a changé, vos relations avec elle par rapport aux autres enfants que vous avez?
Il y a une histoire entre les quatre enfants, c'est qu'elle a une petite sœur dont je me suis beaucoup plus occupé. Je ne sais pas si son nom vous parlera, mais elle s'appelle Marie Bochet, elle est octuple championne olympique de handiski. Et j'ai passé beaucoup de temps, je suis parti 3 hivers avec elle. Et Alice, je me suis rendu compte après, moi j'étais là et je m'occupais beaucoup de Marie à l'époque parce qu'elle avait besoin d'un accompagnement, elle était mineure dans un monde d'adultes et il fallait absolument que je la suive et que je l'épaule. Et je me suis rendu compte un jour qu'Alice en fait vivait très mal cette situation. Et on a eu une relation conflictuelle pendant des années que moi j'avais du mal à situer et qu'elle avait du mal à exprimer. Et le fait qu'on travaille ensemble, ça réglait un peu ce problème-là. Je crois que c'était le moment que je revienne vers elle. Et ça a été aussi le magasin, ça a été aussi cette occasion et ce défi. On est très heureux quand on fait des choses ensemble. Mais dans la famille, il y a pas de, ça n'a pas créé un lien spécial, même si je ne travaille pas avec mes autres enfants. C'est-à-dire, on a des relations qui sont toujours très claires, très nettes. Et ça ne fait pas de différence entre les enfants, en tout cas. Les enfants étaient très rapprochés. Donc, moi, j'ai eu une première fille. Et puis après, on a eu 3 enfants avec ma femme actuelle. Et Alice était la fille au milieu qui était coincée entre le garçon qui réussissait tout, puis qui était le garçon de la famille, parce que c'était comme ça. Et puis elle avait du mal à trouver sa place. Et sa petite sœur qui arrivait derrière, qui devenait championne de ski et qui attirait toutes les attentions. Donc forcément, la place pour elle était très étroite. En tout cas, elle le ressentait comme ça, alors que moi, je ne le vivais pas comme ça. C'est plus ma femme qui m'a dit, attends, fais gaffe, parce que là, ça commence à craindre, quoi.
Moi, je pense que j'étais un petit peu la rebelle. Je ne voulais pas m'inscrire dans un cadre traditionnel. Mes frères et sœurs sont plutôt très sportifs, ce qui est extrêmement valorisé dans le Beaufortin. Moi, j'étais plus l'artiste qui passait son temps à lire et je faisais pas des randonnées. Moi, je m'asseyais dans les champs pour contempler la nature. J'étais pas tout à fait dans le moule de ce qu'on attend des enfants du Beaufortin. Donc c'est pour ça aussi, je pense, que j'ai voulu partir. C'est en partant du Beaufortin, en vivant à Grenoble puis à Paris, en partant vivre quelques mois au Pérou aussi, que je me suis rendu compte que ce qui comptait pour moi, c'était mes racines, c'était ma famille. Et ma famille, du coup, depuis qu'il y a des agriculteurs dans le Beaufortin. Et voilà, je me suis rendu compte en partant qu'en fait, ce qui comptait pour moi, c'était de rentrer.
Donc c'est là, en fait, quand on rentre dans le château, on se rend compte que c'est un château. Donc évidemment, c'est plus grand qu'une maison traditionnelle. Mais c'est surtout en hauteur. Ce qui était la dimension d'agrément du château, elle est en fait que les pièces sont plus petites, donc plus faciles à chauffer, et avec de grandes fenêtres. Donc on sort du côté médiéval, on est vraiment dans cette idée qu'on vient là pour chasser. Enfin, c'était un relais de chasse, donc les gens venaient pour chasser, et puis ensuite c'est devenu vraiment la résidence principale d'une famille, même s'il y avait effectivement certainement une grande domesticité. Vous avez vu les communs, il y avait des chevaux, et puis évidemment des terres. Voilà, c'est vrai que c'est une belle propriété.
Juste avant de continuer, je voudrais que vous vous présentiez.
Donc, je m'appelle Sébastien Aubert du Petit Thouars de Saint-Georges. J'ai 43 ans et donc je m'occupe de l'exploitation viticole familiale. Mes deux parents, ma mère est aussi d'une famille aristocratique, donc il y a toujours eu cet héritage familial, la transmission d'une connaissance d'une histoire familiale a toujours été présente, mais jamais d'une manière pontifiante, au sens où c'était pas, voilà, les privilèges, machin, c'était plus, voilà, on a des devoirs, on a une histoire. Certains personnages de l'histoire familiale ont accompli des choses héroïques, ont fait des choses, ont voyagé, et donc c'est ça, en fait, ça contribue aussi à se forger une identité, bien sûr, parce qu'on dit, ah, je suis un maillon d'une chaîne, je suis la continuité d'une histoire qui n'est pas banale. Enfin, aucune histoire n'est banale, on a chacun nos destinées propres, mais c'est vrai que certains personnages contribuent plus ou moins à l'histoire de France. C'est quelque chose dont on tire aussi une certaine fierté. Et après, parfois, on se dit, bon, bah, quand on doit s'occuper d'un patrimoine comme ça, ce qui est une certaine responsabilité, bah, on n'a pas envie de décevoir non plus, on a envie de continuer l'aventure. On n'a pas envie d'être celui qui va vendre le château de famille. C'est une des pièces, c'est un des salons du château et le salon principal avec pas mal de portraits d'ancêtres. Quand on voit Marie-Françoise Aubert du Petit Thouars de Racet, dame de compagnie de la duchesse de Bourbon-Condé. Voilà, c'est des noms de l'histoire de France. Ça nous fait voyager. On essaie parfois, on se dit, tiens, mais quelle pouvait être leur vie Et puis, à un moment donné, il y a eu des difficultés. La famille a été prise dans un procès très long. Et les enfants étaient très jeunes et ils ont reçu un coup de pouce, comme on dit aujourd'hui, de la sœur de la fameuse Madame de Montespan. On n'a pas parlé encore du côté de la mère de mon père. C'est un héritage avec des origines polonaises, espagnoles, avec des héritages très forts. La famille du côté de ma mère, c'est une famille de l'aristocratie française. Donc cet héritage, il n'est pas juste celui du Petitoire. Il est multiple, il est complexe et il est riche.
Qu'est-ce que c'est au fond qu'appartenir à une famille ? Moi, je défends quand même l'idée qu'il y a du choix.
François Noudelman.
Même en termes de...
Philosophe.
De famille, il y a de l'ordre de l'adoption. Voilà, moi, je trouve que l'idée d'adoption est une très belle idée parce qu'elle permet justement de faire valoir le libre arbitre. Et même si évidemment, on peut dire, bah oui, on choisit pas sa mère, son père, c'est sûr. C'est sûr et encore, bon voilà, on peut choisir de les assumer, d'hériter, ou on peut choisir de ne pas hériter. Il y a des très belles pages, par exemple, de Montaigne sur la question de l'adoption, où il dit qu'il faut que l'enfant adopte son père ou sa mère. Bon, il prend des références antiques assez amusantes, des communautés sexuelles. Vous savez, les communautés sexuelles, c'est dans l'Antiquité, où les communautés où, au fond, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de mariage. Et donc, se pose la question, on trouve ça chez Platon aussi, mais enfin, on trouve ça aussi dans l'histoire, chez des peuples anciens. Et donc, la question des enfants se pose. À qui sont les enfants si une femme a eu plusieurs relations avec plusieurs hommes? Et donc, il y a différentes procédures, différents protocoles pour reconnaître un enfant, pour reconnaître dans les deux sens du terme. Vous voyez, c'est intéressant ce mot « reconnaître », parce que reconnaître, c'est bah « oui, je vois très bien qu'il ressemble à tel père ». Mais reconnaître, c'est aussi un acte. C'est-à-dire quand on dit « oui, je reconnais mon enfant », et c'est un acte juridique. Alors Montaigne dit, bah, voilà, au fond, lui, il pense que les petits-enfants, voilà, quand ils sont en âge de marcher, on les met devant un groupe de pères, et puis, bon, ils se lèvent, et puis le père vers lequel ils vont, c'est le vrai père. Voilà. Et j'aime beaucoup cette image, parce que ça veut dire que l'enfant se lève, donc il devient d'une certaine manière adulte, il a le choix, et il peut se diriger, c'est une option, hein, choisir son père. Bon, la mère, en principe, on sait.
Alors, je suis Eric Porte, moi j'ai 57 ans, je suis né en Algérie, mes parents pieds noirs en partie, Bastien il a 31 ans cette année bientôt, voilà, il est né en région parisienne, sa maman est bretonne, il a une sœur qui s'appelle Lucie, qui est née en 1990, et une qui s'appelle Lénaïque. Bastien il est marié avec Nathalie, et puis il a deux petits garçons, Émeric et Antonin.
Vous avez toujours été proches ?
Oui, on a rarement été séparés, bon. À part évidemment dans les périodes d'études, lorsque Bastien est parti un peu plus loin.
Ma compote.
Merci. Mais voilà, oui, on est quand même très proches. Et puis peut-être parce qu'il a eu une naissance difficile. Ma femme a été emmenée en urgence et on m'a dit on va essayer de sauver un des deux. Voilà. Et je me suis retrouvé tout seul un matin, à 7h du matin, dans une clinique. Sans personne à qui parler, à attendre jusqu'à ce qu'on m'amène Bastien, qui pleurait. Et la sage-femme m'a dit, mais prenez-le dans vos bras, vous allez voir, il va s'arrêter. Et je lui ai parlé, effectivement, et dès que je lui ai parlé, il s'est arrêté de pleurer. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Je crois que j'ai jamais été aussi heureux. C'est sûr qu'après, ma femme avait toujours eu l'impression de ne pas avoir vécu un accouchement normal et que... Elle avait du coup raté beaucoup d'événements de cette journée. Mais oui, la fin est heureuse, ouais. Heureusement.
Qu'est-ce qu'il vous a appris, votre fils ? Des petits, puis maintenant encore ?
La tolérance. C'est pas une qualité que j'ai beaucoup, ça. Alors, en plus, il y a ma belle-fille devant moi qui écoute tout ce que je dis. Là.
Je vais pouvoir tout répéter.
Non, je suis peut-être trop exigeant. Ouais. J'aimerais des fois que tout soit parfait, mais c'est pas possible. Voilà. Mais c'est une forme d'éducation. J'ai été élevé comme ça. Être à l'heure, manger comme si, bien travailler, réussir. Voilà, pour que ça déborde. Mais c'est difficile hein, de casser son éducation.
Et c'est comme ça que vous avez élevé votre enfant, vous croyez ?
Je pense que j'ai été trop dur des fois. Peut-être parfois même j'ai fait des remarques difficiles. Bon, il est là, il est comme ça, et voilà, il s'est construit avec ce que j'étais, quoi. C'est pas trop mal. Ouais, peut-être c'était plus difficile pour mes filles. Ouais. Peut-être qu'elles ont vu que j'étais exigeant avec Bastien, j'étais peut-être pas de la même façon avec elles. Alors peut-être qu'elles auraient aimé que je sois exigeant avec elles. Je l'ai été quand même, mais je me rends compte qu'il y avait vraiment une différence de traitement. Toujours ce qu'on disait tout à l'heure, cette histoire de homme et de garçon de la famille. Mon père m'a inculqué ça, du style « on n'est pas des nobles, on n'a pas d'histoire de nom de famille, mais il ne faut pas qu'on ait des choses à dire sur notre nom de famille, sur nous. Voilà. Donc on doit bien se comporter. » C'est une espèce de code d'honneur.
Ça, c'est mon grand-père, qui s'appelait Georges Aubert de Saint-Georges, qui est mort malheureusement très jeune, dans les années 50. Mon père était l'aîné, c'est pour ça que c'est lui qui a hérité du château, mais il avait un frère. Et là, vous avez Georges Aubert de Saint-Georges, qui est devenu donc Georges Aubert du Petit Oire de Saint-Georges, et c'est lui qui a acheté la propriété en 1636. Alors lui, ce qu'on sait de lui, c'est que c'était un gentilhomme militaire de carrière qui travaillait pour le cardinal de Richelieu comme agent diplomatique. Tel que c'est raconté par mon arrière-grand-père, qui a fait une petite monographie de la famille, le cardinal lui aurait dit « Voilà, vous approchez de la quarantaine, vous avez bien servi votre roi, je me fais construire mon château à Richelieu, il y a 35 km d'ici, je veux que vous ayez un domaine et que vous preniez une femme et que vous installiez. » Et donc c'est comme ça qu'il a pu acheter le château à un autre des collaborateurs du cardinal qui s'appelait Monsieur Claude Boutillier, qui était un intendant des finances. Oui, chérie, c'est bien.
Est-ce que vos enfants, vous leur racontez justement cette histoire familiale ? Est-ce qu'ils en savent quelque chose ?
Alors, les enfants, doucement sur le piano. Oui, ils sont conscients du fait qu'ils sont issus d'une famille avec qui a un titre, même si les titres aujourd'hui ne sont plus reconnus par l'administration française. C'est un héritage dont ils sont conscients, oui. Ça peut leur arriver, alors qu'il n'y a pas de... On leur a dit, voilà, que c'était mon père qui avait le château. Avant lui, c'était son grand-père. Que ensuite, ce serait moi, même si j'ai une sœur. Mais ma sœur, elle se destine pas forcément à reprendre le château ou à vouloir le partager avec moi. Et donc, vraisemblablement... Selon une certaine logique, ce serait sans doute mon fils qui me suivrait. Donc ça, ils en parlent. Dans quelle mesure ils en sont pleinement conscients de ce que ça représente, je ne sais pas, mais ils sont conscients qu'il y a une histoire.
I'm heavy. I put you on my lap, Dad.
I can see.
Les révolutionnaires, quand ils ont réfléchi à la réserve héréditaire, donc cette part que recevraient automatiquement les enfants,
Anne Gottman.
La révolution a voulu casser la toute-puissance des pères, qui faisaient héritier les uns, pas les autres, et qui, comme ça, cumulaient des fortunes et du pouvoir. Donc il s'agissait d'une opération politique quand même. Et puis aussi, égalité des citoyens, on ne peut pas avoir des pères qui ont tout pouvoir sur leurs enfants. C'est ça au départ. C'est donc, le père est pas, le père et la mère et les parents ne sont pas des despotes. Ils ne peuvent plus être des despotes. On a abattu le roi, on va abattre le roi dans
sur
la famille.
Sur le papier en tout cas.
Oui. Et puis ça veut dire égalité entre les enfants. Ce qui imprime une marque très forte à la culture française, hein. Dire, c'est dans notre ADN, si j'ose dire. En vertu de cette loi, les parents souvent disent, ne font pas de testament, ils n'ont pas besoin d'en faire. Disent, je laisse faire la loi, c'est très bien comme ça. Bon, pas d'histoire entre mes enfants, parce qu'il y aura des histoires, bien entendu.
vous pouvez me dire, les enfants, où est-ce que nous sommes là? C'est quoi comme pièce ici?
Dans le grand salon.
Et qu'est-ce qu'il y a sur ces tableaux?
Des personnes.
Tu sais qui c'est? Ce sont les ancêtres de la famille.
Et du coup, c'est l'aîné ou le premier garçon qui héritera du château?
Ce sera le premier garçon et a priori le seul, parce que mon épouse, comme vous avez pu le voir, est enceinte, mais nous attendons une deuxième petite fille.
D'accord, donc c'est le petit Georges qui héritera de l'exploitation.
Oui, s'il le souhaite. Faut qu'il en ait envie. Je pense que c'est surtout ça, en fait. Je pense que si j'avais dit à mes parents, finalement, non, je ne me sens pas comme ça. Peut-être qu'ils se seraient préparés à trouver un autre système, mais ça, c'est en l'occurrence, en ce qui me concerne, ça s'est pas posé, parce que j'avais de la fierté vis-à-vis de cette histoire et de ce patrimoine, et donc la graine était plantée pour que je ne me défile pas. Je m'attends pas non plus à faire une fortune dans le vin, mais si je peux entretenir la maison, vivre agréablement, sans excès, et pouvoir emmener mes enfants en vacances et leur donner une bonne éducation, et ensuite que je peux leur transmettre ce patrimoine, j'aurais accompli ma mission et je pourrais m'endormir tranquille.
Doucement, les enfants.
C'est une pièce que j'aime beaucoup, la bibliothèque. C'est une pièce qui est extrêmement agréable en été, parce qu'elle est un peu plus fraîche. Quand j'étais adolescent ou étudiant, j'aimais bien venir dans cette pièce pour écouter de la musique, pour lire. Alors c'est vrai que maintenant, on est un peu trop occupé parfois pour le faire. Je désespère pas de pouvoir prendre le temps d'en profiter.
Comme on a la même enfance, qu'on a passé quand même énormément de temps ensemble,
Alice,
on se comprend parce qu'on a les mêmes références, qu'on a les mêmes valeurs, que nos parents nous ont inculqué les mêmes choses. Donc je trouve ça très facile de parler avec mes frères et sœurs parce qu'on n'a pas besoin de leur expliquer, ils savent déjà. Et puis, c'est vrai qu'en prenant le poste ici, mais en fait ça s'est passé avec mes frères et sœurs aussi, j'ai l'impression qu'il y a 2 ou 3 ans, il y a eu un déclic où on s'est rendu compte qu'en fait on avait tous changé, mais qu'on partageait quand même tous les mêmes valeurs, et que du coup, c'était plus que de l'amour fraternel ou de l'amour entre les parents et les enfants, c'était une vraie estime pour ce qu'on faisait les uns et les autres.
J'ai aucun de mes enfants qui va reprendre l'exploitation.
Ils vont.
S'ils avaient choisi de le faire, je les aurais accompagnés. Après, ce que je leur ai transmis, certainement, c'est l'amour des choses bien faites, du travail, avec ma femme d'ailleurs, parce qu'on est exactement sur la même ligne là-dessus.
Vous-même, vous avez repris l'exploitation de vos parents ?
Oui, moi j'ai repris l'exploitation de mes parents. Ouais. J'ai repris une exploitation qui appartenait à mon père, qui appartenait à mon grand-père, l'arrière-grand-père. Sur le chalet d'alpage, il y a une date, c'est 1840, c'était déjà la famille. Mais j'ai pas cette notion de continuité dans ce domaine-là. Autant j'ai envie que la filière continue à se développer, que des gens prennent en charge et me succèdent, et puis qu'ils continuent à travailler avec leurs idées, et qu'ils continuent à faire des beaux produits, et puis à être fiers de leur région. Autant le fait de transmettre l'exploitation à quelqu'un extérieur à la famille, pour moi, c'est pas un problème. Ce qui me ferait peur, la seule chose qui me ferait peur, c'est s'ils étaient obligés, ils se sentaient obligés de le faire, et que ce soit pas leur choix. Moi, je suis resté parce que c'était mon choix. J'ai fait ce choix-là contre l'avis de mes parents, parce qu'à l'époque, la réussite du Beaufort n'était pas encore là. Et les conditions de vie et de travail étaient beaucoup plus difficiles. Aujourd'hui, on a des outils qu'on a su développer. On a un confort dans les chalets en alpage. On a des machines qui nous permettent de travailler dans des conditions normales. On arrive à partir en vacances, pas régulièrement, pas autant qu'on voudrait, mais on arrive à partir. Et ça fait qu'il y a des gens qui peuvent nous succéder dans de bonnes conditions.
Alors, j'ai adoré mon enfance. J'ai adoré la vie que mes parents nous ont offerte dans le Beaufortin. J'ai beaucoup d'admiration pour eux, pour ce qu'ils ont fait, pour le travail qu'ils ont accompli. Mais l'élevage laitier, c'est un métier d'abnégation. Si je le faisais, ce serait vraiment pour continuer l'histoire familiale, mais je m'y sens absolument pas obligée. Au contraire, je pense que l'histoire pourra continuer avec quelqu'un qui ne fait pas forcément partie de la famille, mais qui aura cette passion, et du coup, l'histoire ne sera que plus belle. Et on a prévu avec mon compagnon de retourner vivre en Savoie en 2019, début 2020, pour reprendre l'activité de ma maman, pour le coup, qui est éleveuse d'escargots et qui tient un refuge en alpage l'été. Et du coup, c'est le moment où elle va prendre sa retraite, et ça tombe très bien parce que nous, on a très envie de partir de Paris. Et voilà, on continue l'histoire, mais sur place.
Et concernant vos propres enfants, à tous, à vous et à vos frères et sœurs, est-ce que vous envisagez de leur transmettre cet attachement-là à ce territoire ?
Pour moi, c'est aussi une des raisons qui font que j'ai besoin de rentrer en Savoie, c'est que j'envisage pas d'avoir des enfants dans un autre contexte que celui dans lequel j'ai grandi. J'ai eu tellement de chance d'avoir cette enfance que je me sens pas autorisée, que je trouverais ça complètement dommage de pas donner la même enfance à mes propres enfants.
L'héritage ne se transmet pas, c'est pas une boîte avec un contenu qui grossit au fur et à mesure des générations qui restent intactes, etc. Non, les individus piochent, entre guillemets, ce qui fait sens pour eux dans la manière dont ils construisent leur relation à la famille et leur place dans la famille.
Elsa Ramos, sociologue, membre du Centre d'études sur les liens sociaux.
Que ce soit un objet, que ce soit une photo, que ce soit une maison de famille, ça vient marquer, ça vient démontrer la place qu'on prend dans la famille. Ce sont des ancrages, en fait. J'ai le souvenir d'un enquêté d'une soixantaine d'années qui me disait « Ma place est réservée dans le caveau familial, mais une fois de plus, j'ai désobéi à ma mère. » Donc il y a aussi cette... c'est aussi à un moment refuser un héritage, c'est rendre compte du fait que je suis aussi un individu et je ne suis pas défini que par mes appartenances et mes attributs familiaux. Pour d'autres, un homme qui traînait, entre guillemets, comme il me dit, je traîne un boulet de 150 kilos de pièces, de monnaie, et comme ça lui avait été offert par son père était décédé. La question du décès des parents est intéressante parce que ça change des choses aussi à la famille. Hein. Mais son père étant décédé, quelque part, il était en dette. Donc il n'arrivait pas à se débarrasser de cet héritage de poids. Et la seule condition pour lui de s'en débarrasser, c'était qu'un collectionneur reprenne l'intégralité de la collection. Et comme il ne trouvait pas cette personne... qui pouvait acquérir l'ensemble, voilà, ça faisait des années, chaque déménagement, il avait ses 150 kilos de pièces. Donc là aussi, ça montre la fidélité à la place. La fidélité, alors à la place, mais aussi en lien avec, à un moment, une relation, c'est-à-dire son père, lui, avait offert ça. Donc c'était une forme de promesse et donc de dette dans qu'est-ce que je fais de cet héritage et je ne peux pas m'en débarrasser.
Dans chaque pièce que l'on visite, il y a au moins une dizaine de traces du passé. Est-ce que c'est pas trop lourd de vivre dans ce passé familial ?
Cet héritage, oui, il est pas anodin, mais c'est un bel héritage. Moi, si je parle beaucoup du patrimoine, de cet héritage, c'est parce que aussi mon père vient de décéder il y a à peine 2 ans, que ça entraîne des problématiques de succession. Qu'il faut régler les dettes du passé, qu'il faut avancer. Donc, je suis encore dans une période, où ça bouge un peu, quoi. je suis pas dans une période de sérénité complète, mais je l'accepte.
Comment est-ce que votre père, déjà de son vivant, préparait cette succession auprès de vous ?
Il l'a pas préparée, c'est surtout ça. C'est-à-dire que ma sœur et moi on commençait à lui dire qu'il serait peut-être temps de préparer un petit peu les choses, dans son intérêt comme dans le nôtre. Et puis malheureusement, il a eu une tumeur foudroyante et il est décédé très vite, trop vite. Et donc on s'est retrouvé avec ma sœur voilà, devoir gérer la situation. Et c'est vrai que là, je parle beaucoup de moi, mais je suis pas seul. Hein. J'ai une sœur dont je suis proche. On va pas être dans une logique à l'anglaise où tout est pour moi et ma sœur a rien. Heureusement, y a le patrimoine familial fait que ma sœur ne sera pas complètement, ne sera pas lésée en fait. Donc, et moi, j'ai pas envie non plus. Et ça, je pense que c'est aussi une des choses positives qui nous ont été transmises, c'est que l'idée que ce patrimoine familial, c'est pas le nôtre, il faut pouvoir le transmettre. Et donc, si jamais les partages sont pas forcément à 50-50 au détail près, c'est aussi parce que l'idée, c'est de pouvoir continuer à transmettre ça et que finalement, moi, j'aurai plus de responsabilités. Voilà, peut-être un poids supplémentaire sur les épaules, mais qu'elle sera. Je sais que ma sœur, si jamais j'ai besoin d'un coup de main, je pense que dans la mesure du possible, elle sera toujours là aussi pour m'aider.
C'est vous qui avez hérité du château. Votre sœur, de quoi elle hérite ?
Et ben, d'abord, on n'a pas encore fait les partages parce que, comme je vous disais, tout est arrivé tellement vite que et tout se paye. Tout se paye et tout coûte cher. Donc, ma sœur aura aussi des biens immobiliers et autres qui feront qu'elle aura aussi des choses pour pas se sentir lésée et dont elle pourra profiter aussi et dont elle devra aussi s'occuper. Je suis la 12e génération, mes enfants la 13e génération qui habitons cette maison. Donc, il suffit de le dire pour tout d'un coup se dire « Ah ouais, quand même
!» Ah ouais, quand même.
Oui. Bah, c'est beau, c'est une continuité, on n'a pas envie de rompre la chaîne.
Ma mère s'est mariée 3 fois, mon père s'est marié 3 fois, je ne parle que des mariages. Donc, moi j'ai vécu avec des familles où le lien de sang n'était pas du tout évident.
François Nudelman.
Et ça n'empêchait pas, quand on était en groupe, voilà, que des personnes extérieures disaient « Ah, mais voilà », me disaient « Ah, mais vraiment, vous ressemblez beaucoup à votre père, voilà, ou il ressemble beaucoup à son père, c'était pas mon père ». Et après tout, voilà, il y a des ressemblances qui jouent, parce que le ressemblance, c'est quoi ? C'est la fréquentation qui, vous voyez, on souvent dit des personnes âgées, on dit « C'est incroyable, ils finissent par se ressembler dans un couple ». Ah oui, parce que, voilà, ils se regardent, il y a des effets de mimétisme très forts, des habitudes. Voilà, c'est l'intimité, c'est la fréquentation. Je crois qu'on peut effectivement concevoir que on a une forme de liberté adoptive qui nous amène à faire famille, parce que une famille, ça se fait, ça ne se subit pas forcément.
Je m'appelle Philippe et je suis le papa de Lucie.
Et je m'appelle Lucie et donc je suis la fille de Philippe. Paradoxalement, par exemple, ma mère qui est ma mère. Biologique, tout ce qu'il y a de plus légitime et reconnu par tous. Et je pense que ça n'a pas toujours été évident de me voir grandir et de me rapprocher autant de mon père sur certains sujets qu'on aime tous les deux. Je pense que toi, tu m'as incité vachement à lire, à faire. Et encore plus je grandissais, plus on parlait. On avait des sujets d'entente très forts avec mon père, et je pense que des fois, elle a même eu le sentiment de se faire chourer sa fille. Enfin, parce qu'en fait, la vie faisait que je ressemblais aussi de plus en plus à mon père. Et mon chemin de vie a fait que, sur plein de points, je lui ressemble. Et d'ailleurs, ma mère dit toujours « Ah, t'es bien Chester hein. ». Et c'était toujours, quand on se disputait, elle disait toujours « T'es comme ton père ». Je te ressemble beaucoup quand même sur plein de trucs.
T'es sûr que c'est pas l'inverse, c'est moi qui te ressemble ?
On se ressemble quand même, mais...
Je suis frisé, quoi. Donc, quand on allait au supermarché, j'avais toujours des remarques. « Ah, elle vous ressemble. C'est bien votre fille. » Voilà. Ouais. Donc ça, c'était assez drôle. C'était assez plaisant. On rigolait bien tous les deux.
Ouais.
Parce que ce qui est bien, c'est que Lucie, elle a toujours su son histoire. Voilà. Il faut reconnaître à sa mère d'avoir su ne pas cacher les choses.
Et justement, par rapport à cette question de ressemblance, ma mère me disait beaucoup que je ressemblais à mon géniteur. C'était un peu lourd à porter. Je sais qu'à un moment donné, je lui ai fait un peu... le secret n'est pas venu de mes parents. Moi, c'est moi qui ai créé des tabous. Mais je lui ai dit, à un moment donné, je ne veux plus en entendre parler. Je ne veux pas être comparée. Cette personne n'est pas dans ma vie. Je suis moi. C'est ma tête. C'est mon visage. C'est mes attitudes. Et donc, j'ai dit, je ne veux plus en entendre parler. Donc voilà, donc en effet, j'aimais bien qu'on me compare à toi, papa, mais pas qu'on me compare à mon géniteur.
Et on se l'est dit assez tard, parce que en fait, ouais, c'est vers 29-30 ans qu'on s'est enfin, moi, je le vois comme un aveu, mais qu'on s'est avoué que c'était agréable, qu'on nous prenne pour des père et fille biologiques. C'était marrant, quoi. Un peu de malice, mais c'est cool, quoi.
Lucie, aujourd'hui, tu t'apprêtes à donner naissance à un enfant toi-même. Est-ce que ça change, disons, ta manière de penser à ton histoire familiale, à ton lien avec ton père ?
J'ai du mal à me dire que je le fais de manière... Je suis avec mon compagnon, c'est un enfant qui va avoir ses deux parents, qui seront à la fois les parents de l'amour et de l'éducation, et qui seront ses parents biologiques. Mmh. Donc ça me perturbe un peu quand même. Non, mais j'ai quand même beaucoup négocié, et je pense que le bébé, il s'appellera Chester.
Ah, c'est une grande surprise. Bah écoute, comme quoi, qu'est-ce que ça sera un Chester?
Et ça ne sera pas qu'un Chester, ça sera un Chester Cataliotti.
Ah bon,
ouais.
Donc, tout va bien alors.
Ouais. Mais oui.
Bah, c'est un cadeau pour moi. C'est vrai.
Vous, votre prénom c'est
Jean-Luc.
Jean-Luc.
François.
François.
Et Gwendal.
Gwendal. Ok, Jean-Luc, François et Gwendal. Gwendal, t'as quel âge ?
Premier.
D'accord.
Presque 4 ans.
Presque 4 ans.
Grégoire Corgan.
Vous connaissez un peu la série Père et Fils ?
Moi, j'ai regardé hier avant moi sur...
La fois que vous avez fait sur Internet.
Moi. Moi.
Père et Fils, c'est une série qui est un peu ancienne maintenant, que j'ai commencé il y a 9 ans.
Oui.
Avec, la première photo, j'ai fait avec mon fils à moi, en fait.
D'accord. Voilà.
L'idée de cette série est à démarrer parce que mon petit garçon... Il n'a pas la même couleur de peau que moi, en fait. Il a été adopté, il est né en Afrique. Et donc, on était dans un quartier, et tous ses potes qui étaient noirs comme lui, lui disaient, bah, nous, nos parents sont noirs, pourquoi les tiens, ils sont pas noirs, quoi. Et donc, il est rentré comme ça, il m'a questionné sur la ressemblance, sur, voilà, pourquoi tu me ressembles pas, pourquoi on se ressemble pas, est-ce que je suis quand même bien ton fils, etc., etc., etc. Et donc, à partir de là, je lui ai dit, bah, tu sais, c'est quoi la ressemblance? Puis on a commencé comme ça. Je lui ai dit, bah, on va faire des photos père et fils, et puis tu verras, il y en a qui se ressembleront, puis d'autres qui ne se ressembleront pas. Donc, ça a démarré comme ça. Mm-hmm. Donc, j'ai fait une photo avec lui, après, j'ai fait une photo avec mon père, et puis après, j'ai fait les voisins, les copains, et puis voilà. Et cette série, elle a une particularité, hein, c'est qu'elle est torse nu. Je ne sais pas si vous l'avez dit.
Non, mais j'ai vu un peu les photos.
Voilà. Ouais, bon, et donc, je vous explique pourquoi c'est torse nu, parce que ce n'est pas une série qui est là pour raconter une histoire. Elle est là pour travailler sur le lien, le rapport qu'il y a entre un père et un fils, en fait, sur l'intimité.
Très bien.
Très bien. Je pense que le plus simple, c'est qu'on commence par Gwendal et son papa.
On commence par nous, Gwendal.
Hein. Gwendal, tu rentres avec ton papa ?
Je vous laisse dehors.
Ah, pas de problème.
Non, je m'appelle Jean-Luc, je suis le père de François et le grand-père de Gwendal. Je vais avoir 65 ans. Alors François va avoir 36 ans le mois prochain et le petit-fils aura 4 ans en juillet.
Qui a décidé entre vous trois de venir faire une photo aujourd'hui avec Grégoire Corcadeuf ?
Oui, bah c'est François, mon fils, qui m'a demandé si éventuellement je voulais bien participer à ce genre d'événement. J'ai dit bah oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Hein.
Et de poser torse nu avec fils et petit-fils, Grégoire m'a dit que ça pouvait rebuter certaines personnes en termes d'intimité. Vous vous sentez proche de votre fils ?
Oui, très proche, oui, oui. Mmh. Oui, oui. On bricole beaucoup ensemble et on s'apprécie. Et le petit-fils, ben, c'est encore autre chose, quoi. On s'adore, quoi. Donc, j'avais 30 ans quand je l'ai eu, ouais. Je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie. Unique.
Vous vous ressemblez beaucoup tous les trois.
Il paraît.
Et outre ces traits qui sont très évidents, qu'est-ce que vous pensez lui avoir transmis à votre fils ?
Oula, ça c'est là-dessus. Qu'est-ce que j'ai pu lui transmettre ? La joie de travailler ensemble, ça c'était très important. On s'est retrouvés comme ça, quoi.
Et qu'est-ce qu'il vous a donné, lui, votre fils ? Qu'est-ce qu'il vous a transmis ? C'est peut-être plus facile, ça.
Il m'a transmis plutôt l'amour de la nature, ouais, parce que moi, j'étais plutôt un citadin. Mais c'est sûr qu'il m'a transmis plein de choses durant la vie, puisque les enfants sont là pour nous faire grandir, nous, adultes. Donc, tout ce que j'ai acquis depuis sa naissance, c'est certainement lui et ma fille qui me l'ont appris, quoi, ça c'est sûr. Quoi.
Est-ce que vous avez là comme ça un souvenir marquant avec votre fils ?
On a gravi le Dôme des Écrins tous les deux. Donc on a fait un 4000 tous les deux. Moi j'avais déjà fait des 4000, le Mont Blanc, tout ça. Et
voilà. Qu'est-ce qui guidait ? C'était vous ou lui ?
C'était plutôt lui. C'était plutôt lui parce qu'il l'avait fait l'année d'avant. On voulait la faire tous les deux et j'ai dû abandonner parce que physiquement, j'ai pas tenu le coup. Et donc on l'a refait l'année d'après et là, donc ça s'est bien passé. Donc c'est lui qui guidait, ouais, c'est sûr. Et le fait de se retrouver au sommet de cette montagne, ça a été pour moi un événement majeur. On n'avait pas de guide. Donc c'est ça qui était super comme aventure, parce que les autres 4000, c'est toujours été fait avec un guide. Et voilà, on a gravi ça sereinement, et tous les deux. Et là, on est encordés, donc on est vraiment liés. Donc là, c'est une aventure, pas à torse nu, là. Hein. Ah, salut mon grand. Ah, c'était bien ?
Ouais, ouais.
Oui. Oui.
Vas-y, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, Pépin ?
Qu'est-ce que je dois faire ?
Mettez-vous devant. Ok, très bien. Je vous regarde un peu. Non, vous êtes bien, là. Baissez un petit peu la tête. Voilà. En tout cas, vous êtes beau. Vous avez un peu de reflet dans les lunettes, mais... voilà. Vous ressemblez, hein. Je vous regarde. C'est la première fois que vous êtes torse nu comme ça, l'un à côté de l'autre ?
Non.
Non, c'est un truc que vous faites souvent, quoi.
On est souvent à la plage ensemble.
Ouais.
Voilà.
Vous êtes très contact tous les deux ou
pas très contact, moi.
Non.
Non. Moi, peut-être plus. Non, t'as pas froid ?
Non, toi ?
Non.
Et une main sur l'épaule, t'essayes quand même ?
Là ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous voyez, Grégoire, là devant vous ?
La simplicité, je trouve. L'évidence de la relation. Pas besoin de faire grand-chose. Vous êtes fier de votre fils, hein, quand même, j'ai l'impression.
Ouais.
Hein, ça se voit. Hein. Ça se voit, mais c'est dingue. Hein.
Ouais, ouais.
Vous êtes hyper fier, quoi.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui vous rend fier comme ça ? Il y a un truc, je vois, il y a un truc où vous êtes super fier.
J'aurais bien voulu faire ce qu'il fait. Ce qu'il a fait, sa vie, voilà. J'aurais aimé.
Merci à Sébastien du Petit Thouars de Saint-Georges, à Yvon et Alice Bochet, à Philippe et Lucie Chester, aux photographes Grégoire Korganoff et à ses modèles Jean-Luc, François, Gwendal et Eric, ainsi qu'à Eric Boutier de la galerie L'Imagerie à Lannion. Merci aussi à François Noudelman, Anne Gottman et Elsa Ramos. Prise de son, Fabien Gosset. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne à Bolivie.
Ça va ?
C'est celle-ci la photo, non ?
Ouais.
Un documentaire d'Émilie Chaudet, réalisé par Jean-Philippe Navarre.
Ouais, il y a le père qui a posé son menton sur l'épaule de son fils, qui a les yeux un peu mi-clos, et qui est probablement visiblement ému. Et le fils qui reçoit cette émotion, il faut très bien savoir ce qu'il doit en faire. Il ne sait pas s'il doit lui aussi se laisser aller à cette émotion. S'il doit... Voilà. Donc c'est un moment assez rare en photo. Tout simple.
LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter au château, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, en finir avec le secret. et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.